Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres tu... Non,
non, non, non, non.
Mais quelle galère les différents dans cette galère?
Ça fait raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi l'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement, vous dites galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera racontée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois d'avril de Scène de vie, vie de scène. Bonjour Nathalie, bonjour Cécile.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Une fois de plus, Scène de vie, vie de scène prendra le temps de vous parler, comme tous les mois, de l'activité de la scène et de tout ce qui en est autour, bien entendu.
Oui, alors avec un sommaire assez éclectique aussi, parce que Scène de vie aime aborder des sujets, des thématiques d'univers artistique différents. Donc nous commencerons avec un petit focus sur l'Oreille du Cyclone, le prochain festival jazz proposé à Évreux à partir du 10 avril.
Nous recevrons également téléphoniquement Mourad Merzouki.
C'est ça, le directeur artistique de la compagnie Kefig qui joue Box Box ce soir au Cadran à Évreux.
Nous aurons durant toute cette émission avec nous Auré.
Bonjour Auré.
Bonjour Auré.
Bonjour à vous.
L'artiste peintre graffeur donc expose à partir de ce soir au Matahari et le vernissage, donc comme je vous l'ai dit, a lieu ce soir à partir de 18h. Et Auré sera avec nous pendant toute l'émission.
Nous ferons un point sur l'agenda du mois d'avril, des sorties culturelles que nous vous proposons ou sur lesquelles nous avons eu un regard plus
oui,
particulier.
C'est toujours aussi des petits coups de cœur parmi la
tant
multitude
voilà.
De propositions sur le département.
Nous terminerons avec notre voyage musical à travers le monde.
Et aujourd'hui, nous vous emmenons en Jamaïque et on vous fera écouter un morceau de Mento.
Mais tout de suite, sans plus attendre, commençons avec notre traditionnelle prise de son, un moment de vie.
Alors JC, univers sonore bien particulier, un son strident pour ma part, où étions-nous?
Alors nous étions hier soir, pas plus tard qu'hier soir, à l'Abordage Club. L'Abordage Club recevait l'atelier du jeudi, organisé par Franck Dubois, en l'occurrence, cette fois-ci. Il recevait Fred Fritz et Nin Liquan. Alors, qui sont-ils? Eh bien, ce sont deux artistes qui ont proposé de la libre improvisation. Alors, Fred Fritz, c'est un musicien compositeur expérimental anglais. Alors, il a eu également une carrière classique, enfin plus classique, pop, rock,
oui.
Rejouer de la composition. Il a travaillé avec énormément de personnes.
Oui, c'est quand même une figure de, en tant que guitariste, artiste de, du rock et du rock expérimental. Hein, Fred Frith, pour même la génération des années 70, c'est une figure. On peut dire que c'est lui qui est un peu aussi à l'initiative hein, d'un rock. Alors, le rock in opposition, alors moi j'ai découvert, hein, c'est pas du tout ça.
Je crois qu'on a tous, on a tous découvert, c'est vrai que c'était en tout cas pour ma part pas du tout dans ma culture. Et finalement, le côté expérimental... lui est un des précurseurs de cette musique-là.
En fin de compte, oui, c'était vraiment tout le mouvement alternatif par rapport au rock. Au rock a été quand même hyper industrialisé, médiatisé, formaté, standardisé. Et donc, Fred Frith a vraiment donné l'opposition, le parallèle en expérimentation.
Et il jouait du coup hier avec Nin Li Kuan, qui travaille plus sur des formations classiques. C'est un percussionniste. Et voilà, cette rencontre était une rencontre...
Oui, et assez particulière, parce qu'elle écoute vraiment de la prise de son. Moi, on a même une difficulté à reconnaître la percussion de la guitare, des instruments. C'est vraiment un mélange, un travail sonore qui fait que ça apporte un son vraiment à part. Et voilà, c'est une première impression. J'ai l'impression que l'instrument s'oublie, s'efface au profit du son.
Sachant qu'il y a tout un travail de détournement de l'instrument, notamment sur la première partie, Nin Li Kuan joue de la pomme de pin, par exemple.
Ouais,
il joue de la pomme de pin également sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, un gros tambour, une espèce de grosse caisse de batterie, mais montée autrement. Donc voilà, il y a un détournement également de l'utilisation première de l'instrument. Ils sont donc partis sur une heure et quart à peu près d'improvisation libre et d'improvisation complète. Rien n'est écrit au début du set. Et il disait, j'ai eu la chance de les rencontrer après, donc pour échanger, il disait, tout est basé sur l'écoute finalement, pas sur l'action, mais plus sur l'écoute de l'autre et de ce qu'eux-mêmes font. Ils arrivent à s'étonner eux-mêmes. Voilà, ouais, de ne pas maîtriser le résultat de l'action qu'ils sont en train d'apporter.
Voilà. Merci, j'y sais pour tes précisions.
Bah, vous pourrez réécouter beaucoup plus de cette improvisation mercredi prochain à 12h30 sur notre antenne où nous consacrons la bulle et reportage autour de Fred Frith et Nin Li Kuan.
Et maintenant, on change d'univers musical pour le coup et on retrouve Dan Auerbach, le chanteur des Black Keys, mais là, cette fois-ci, avec une autre formation, les Fast Five.
I did in my eyes. What's he got that I ain't got? Besides stability, can he drive all night and never stop? Well, I guess you have to wait and see. Gonna be free. Left hanging over is raining light.
like a mean monsoon. I heard a voice and it called to me, saying someday you're gonna be free.
Dan Auerbach and the Fast Five. Alors, pour la petite histoire, quand même, Dan Auerbach a joué avec les Fast Five en 2009, et c'est en partie avec eux qu'il enregistra son premier album solo, Keep It Hid.
Très bien, Nathalie. Nous vous le disions. Non, mais c'est, l'accent était très bien, Nathalie. Hein. J'ai bien senti une espèce d'hésitation.
Il me joke, on se joke sur les accents anglais.
Mais on sent l'anglophone Antoine, attends.
Ah, oh, merci.
Il sommeille en tout cas.
Voilà, il sommeille. Il va se réveiller un jour. Mais...
Nous passons maintenant à l'oreille du cyclone, le focus autour de l'oreille du cyclone que nous souhaitions faire.
Oui, donc Festival Jazz à Évreux du 10 au 13 avril, avec une programmation, là pour le coup, moi je dirais jazz et autres musiques, hein, parce qu'on est sur une programmation qui ouvre aussi à d'autres sons. Et nous écoutions en début d'émission la prise de son de Fred Fries, et là, en ouverture de ce festival, l'oreille du cyclone, un solo d'orgue, pour le coup, vous me direz, mais quelle est la partie jazz ? Donc non, le solo d'orgue de Jean-Luc Guillonnet est proposé à la cathédrale d'Évreux, et donc là, ça fait partie également d'une collaboration avec les ateliers de Franck Dubois. Donc comme on l'a vu, Franck Dubois amène toujours des artistes purement atypiques qui sont vraiment dans la recherche du son, dans l'expérimentation, dans l'improvisation. Et là, Jean-Luc Guillonnet, eh bien, est autour de l'orgue, mais avec pas seulement l'orgue, puisque c'est aussi un saxophoniste, un organiste. Il improvise, il fait du free jazz, mais il a aussi une dimension art plastique, c'est-à-dire pendant ce concert performance, moi je dirais, autour de l'orgue, parce que ça va être tout autant visuel que sonore pour cette manifestation. Et lui est au milieu de ses tubes, utilise cet environnement pour amener son son, mais également travaille avec aussi des images, enfin voilà, c'est tout un ensemble sonore et visuel qui est proposé aux spectateurs.
Et ce sera le mercredi 10 avril à 19h30 à la cathédrale, à Évreux.
Et voilà, et c'est gratuit, c'est une ouverture de la cathédrale au public. Voilà, donc ça c'est un lancement dans un univers. Donc l'oreille du cyclone nous emmène dans des univers sonores totalement différents. Et nous aurons un deuxième concert proposé qui s'intitule Amérique, et là qui est une rencontre entre le quatuor Habanera, donc quatuor de saxophone, uniquement sax, et le pianiste et compositeur Alexandros Markeas, là qui pour le coup sera au clavier, au piano. Alexandros Markeas, on a déjà un peu parlé dans l'émission, il y a eu une rencontre radiophonique avec ce compositeur. Et là, donc, après différents ateliers, rencontres, a été décidé de proposer ce concert qui a plus des couleurs d'improvisation. Apparemment, la couleur est plus autour de John Coltrane, Steve Reich, voilà, on nous emmène aussi dans un univers, dans un pays qui est celui des Amériques. Nous aurons, alors là, pour le public, on va dire pour le tout public, plus large, où on peut venir en famille, c'est aussi un musicien, un artiste qu'on entend en ce moment, puisqu'il vient de lancer son nouvel album. Il s'agit de San Severino, qui, pour le coup, là, nous offre une tournée bluegrass. Alors, on sait, San Severino, c'est la guitare manouche, le rythme qui l'habite. C'est aussi un autodidacte dans la musique. Lui, il a fait plein de choses avant d'en arriver à être connu, reconnu par un de ses titres. Et là, il vient aussi à ses amours de jeunesse, puisque lui, tout le rock d'avant Elvis Presley, c'est ce qu'il écoutait. Et sur vinyle, et là il rend hommage, il signe un concert qui somme toute doit être assez festif, et il y a une joie chez lui portée, il aime aussi la transmission au public, la petite blague, c'est assez festif, assez joyeux en tout cas.
Et puis on termine du coup le festival sur des notes toujours aussi festives et joyeuses avec un trio qui est incroyable. Moi, j'insiste parce que ils m'ont fait découvrir le jazz. C'est le trio Journal Intime avec leur album Lips on Fire. C'est pas un titre qui vous est inconnu, si vous connaissez pour les fans de Jimi Hendrix, puisque effectivement, il s'agit de reprises de Jimi Hendrix, mais uniquement instruments à vent, donc saxophone, basse, trompette, trombone. Et moi, j'ai eu l'occasion de les entendre donc sur cet album-là. Quand je vous dis que c'est bluffant. Vraiment, alors qu'en face de nous, on n'a pas une seule guitare, on n'a pas une seule voix, on reconnaît mais vraiment les morceaux d'Hendrix. Et puis voilà, c'est une équipe qui est tellement joviale, qui partage, qui s'éclate sur scène et ça se transmet au public. Voilà, ce sera le vendredi soir et on les retrouvera le samedi. Alors là, pour le coup, ce sera pour tous les habitants d'Evreux, puisque en grand format, en fait, la fanfare a dansé, qui s'appelle Les Faux Frères. Donc on a les trois musiciens du Journal Intime, plus, qui là déambulera dans les rues d'Evreux samedi matin.
Voilà, donc le samedi 13 avril à partir de 11h sur un départ prévu sur la placette Oursel d'Evreux.
Voilà, je crois qu'on a tout dit sur le festival.
Le tour de l'oreille du cyclone, qui est de moins en moins de jazz, j'aurais presque envie de vous dire, qui est plus ouvert sur des musiques qui ont un lien avec le jazz, mais c'est plus ouverte.
Oui. On garde quand même aussi toujours un sens de l'improvisation, du free, voilà, l'esprit free qui est beaucoup dans cette programmation-là.
Du 7 au 16, quoi.
Du 10 au 13.
Juste avant
les vacances d'avril.
Je refais mes dates. Hein. Ça m'arrangeait pas trop du 10 au 13. Nous repartons justement en musique avec un extrait de San Severino.
Proprio du honky-tonk, du tonk, bar à bière, un camouflage, déco militaire, on avait du bon temps, et on allait souvent boire du mescal, en parlant troisième guerre mondiale. Tous ceux qui venaient ici en jeep ou en Hummer étaient d'anciens nazis, d'anciens dictateurs, il y avait du beau linge, et les soirées rambo se terminaient souvent par des cris, des coups de boule et des coups de couteau. Les fûts de bière sont vides et les clients me manquent. Il ne reste plus rien, les honky tonk du tonk. On fait pas dans le détail, honky tonk du tonk. Ici, pas de dentelle sous nos bretelles, tu vois la tolérance. On s'en balance. Tous ceux qui collent au bar n'ont pas peur des snipers. Israël, Palestine, les Hutus, les Tutsis, Désiré, Kabila, Guantanamo, Kadhafi, Kaboul, Sarajevo, Ben Laden, George Bush, Mobutu et Tito. On connaît tout ce qui est bon, c'est la médiathèque de la baston. Les fûts de bière sont vides et les clients me manquent. Il ne reste plus rien, les bons qui tankent du tank. Manifeste, bientôt les prolos n'iront plus au boulot. Non à la violence, le nucléaire non merci. Et pourquoi pas le fils et de l'eau aussi. Vive la guerre. Jumelage avec un barbe vétéran du Vietnam, raid anti-hachiche d'un coffee shop d'Amsterdam. Les bonnes occasions ne manquent pas d'intervenir dans les colloques, dans les débats sur le combat. Les fûts de bière sont vides et les clients me manquent. Il ne reste plus rien du bon qui tank, du tank. Bien des années plus tard, derrière mon bar, je pleure. Tous les clients sont morts. Au champ d'honneur, les fusillés marins, les commandos ne reviendront jamais au bon qui tank, du tank. Les fûts de bière sont vides et les clients me manquent. Les fûts de bière sont vides et les clients me manquent. Les fûts de bière sont vides et les clients me manquent. Il ne reste plus rien du tank, du tank, du tank.
San Severino, le honky tonk du tank.
Donc Mourad Merzouki, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour, oui. Bonjour monsieur Merzouki.
Bonjour.
Je ne sais pas si vous nous entendez bien, on est en direct sur l'antenne de Principe Actif. Donc bienvenue.
Très bien.
Oh, super, bienvenue avec nous. Alors très rapidement, je vous présente, vous êtes danseur, chorégraphe, directeur du Centre chorégraphique national de Créteil et directeur artistique de la compagnie Kefig, qui est donc une compagnie de danse hip-hop qu'on accueille ce soir à Évreux au Cadran avec le spectacle Box Box. Je crois qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Moi, j'avais envie de savoir comment s'opère la transposition de la danse hip-hop de la rue vers la scène, vers le plateau.
Alors, le pari, c'est de dépasser la démonstration et le côté improvisé, spontané de cette danse, c'est-à-dire d'essayer d'amener cette gestuelle au service d'une écriture chorégraphique. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire dans mes spectacles à chaque fois, c'est de partir de ce vocabulaire qui vient de la rue pour le mettre en scène dans un théâtre.
C'est foisonnant parce que en même temps, quand on lit vous votre parcours et puis on en discutait avec mes collègues en préparant l'émission, vous avez vous un parcours qui est hyper éclectique et en même temps l'art de la rue c'est hyper foisonnant, donc tout ça se rejoint. Comment on fait pour canaliser tout ça finalement?
Alors c'est vrai qu'au début je me souviens qu'au on montrait un petit peu du doigt cette démarche en disant « mais on va perdre l'énergie du hip-hop, vous êtes un petit peu récupéré par les institutions ». Je suis pas complètement d'accord avec ce point de vue, c'est-à-dire que si le hip-hop en est là aujourd'hui, presque 30 ans après, c'est parce que justement il a su s'ouvrir, prendre des risques et se frotter à d'autres esthétiques. Après, effectivement, ce qui me paraît important, c'est de faire des va-et-vient, de continuer aussi à danser dans la rue pour justement être toujours au contact de la société, du quotidien. Et c'est ce qui me plaît de faire aujourd'hui, c'est de à la fois imaginer des spectacles pour une scène, pour un public assis, en frontal, et en même temps de continuer à évoluer aussi dans la rue, parce que c'est aussi ce qui fait la force de la culture hip-hop.
Oui, alors là, pour le coup, vous, sur le spectacle, là, je reviens plus précisément sur le spectacle de ce soir, où vous confrontez la danse à la boxe. Vous faites comme un parallèle. Vous parliez justement d'ouverture et de s'enrichir de d'autres domaines artistiques. Mais là, c'est une comparaison entre un sport voilà, et un art de la scène. Alors, c'est vrai qu'on a l'idée du ring, hein, de la boxe, du ring qui est déjà un plateau. Mais voilà, c'est venu de quoi ? De vous-même, d'une pratique sportive, d'une connaissance de ce plateau ?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'avant d'être danseur, j'ai été boxeur. Et c'est vrai qu'à chaque fois, dans les spectacles, j'essaye comme ça de proposer finalement une partie de mon parcours, de ce que j'ai pu vivre, de ce que je vis au fur et à mesure. Et là, en l'occurrence, la boxe m'a beaucoup appris. Et c'est vrai qu'en étant boxeur, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes avec la danse. Et d'ailleurs, quand on entend parler des boxeurs, eux-mêmes parlent de danse, à la fois sur le rythme, à la fois sur ce que ça demande en termes d'engagement, de rapport à son propre corps. Donc il y a plein de liens comme ça avec le danseur. L'ouverture du rideau pour la danse, c'est un peu d'affronter le public, c'est d'affronter aussi d'une certaine manière l'adversaire. Enfin bref, il y a comme ça plein de similitudes. Donc c'est vrai que j'ai eu envie de rapprocher ces deux disciplines, de les réconcilier peut-être d'une certaine manière, parce que c'est vrai que c'est le sport qui crée un dialogue avec la danse. Ouais. Donc c'était un défi, c'était un pari, et j'avais aussi envie de donner une image autre que l'image qu'on peut avoir de la boxe où c'est deux personnes qui se cognent. Il y a autre chose dans la boxe. En tout cas, moi, j'ai appris à la fois dans son rapport à soi, dans la gestuelle, dans le rythme. Voilà, j'avais envie d'apporter peut-être un côté un peu poétique à cet art. Donc en faisant comme ça, en créant un dialogue avec la danse. Voilà, donc c'était un pari. Et en même temps, c'est des paris un peu fous qui me plaisent, parce que c'est aussi ce qui m'excite dans mon travail de chorégraphe, c'est d'aller comme ça faire rencontrer des disciplines qui, à première vue, sont peut-être éloignées.
Effectivement, c'est voilà, ça prend corps sur le plateau, et puis j'irais même plus loin dans ce spectacle. Enfin, puisqu'on parle de box là, la musique, elle tient une place quand même assez importante, même dans tous vos spectacles d'ailleurs. Et ici, elle prend vraiment corps sur le plateau, puisque sur scène, à la création, il y a le célèbre quatuor de Bussy, le célèbre quatuor à cordes de Bussy. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus donc sur cette collaboration ?
Alors, c'est vrai que pour porter la boxe et la danse hip-hop, c'est-à-dire que deux disciplines qui, quand on pense à la boxe, effectivement, on pense au rythme qui se dégage, peut-être aussi à la violence qui peut se dégager de ce sport. Et puis le hip-hop, on pense au rap, aux musiques urbaines. Là, pour pouvoir justement imaginer ce dialogue entre ces deux disciplines, j'ai voulu m'entourer effectivement d'une musique qui était complètement décalée, là, en l'occurrence, de la musique classique. Donc, toutes les chorégraphies sont montées sur Schubert, Corelli, Mendelssohn, etc. Et avec un quatuor sur scène qui, justement, porte la chorégraphie de manière aussi physique. Mmh. Et c'est vrai que, du coup, ça donne un résultat assez inattendu, assez surprenant, parce que là, pour le coup, on a comme ça, sur le même espace, la boxe, la danse hip-hop et la musique live, la musique classique. Voilà, là aussi, encore une fois, c'était un risque que j'ai pris, parce que je ne connaissais pas ou très peu la musique classique. Et dans mes chorégraphies, c'était un vrai pari, parce que c'est des musiques assez complexes à compter. Et du coup, ça m'a un petit peu déstabilisé dans ma manière d'écrire la chorégraphie. Mais c'était extrêmement, extrêmement excitant, intéressant. D'autant plus que le quatuor de Bussy, c'est un quatuor aussi atypique, dans le sens où... ils étaient prêts à s'engager aux côtés des danseurs, c'est-à-dire pas être dans une fosse et jouer telle ou telle œuvre. Là, l'idée, c'était de les avoir vraiment sur scène, dans la chorégraphie, donc on les voit évoluer presque comme les danseurs finalement. Mmh. Et c'est ça qui m'a plu dans ce travail que j'ai pu avoir avec eux.
Oui, ce sont aussi des corps, en fin de compte, des corps de musiciens sur le plateau. C'est ce qui, voilà, c'est l'enjeu de la... Vous aimez en fin de compte être bousculé. J'entends que vous ne connaissiez pas particulièrement la musique classique ou le travail du quatuor, mais vous les invitez sur le plateau. C'est-à-dire à chaque fois, c'est quelque chose de différent que vous ne connaissez pas, qui doit venir bousculer, interroger votre création. C'est un peu comme ça aussi que vous nourrissez, ou des fois il y a des fidélités ou des filiations.
C'est vrai que c'est la grande crainte à chaque fois de pas faire la même chose, c'est-à-dire que je pourrais à un moment être dans une espèce de recette que je reproduis à chaque spectacle. C'est d'une certaine manière le piège, et on se fait attendu par le public, par les professionnels. C'est-à-dire que l'objectif aussi, c'est de pouvoir peut-être aussi surprendre. Et puis j'ai aussi, d'une certaine manière aussi, je ne sais pas comment je peux le dire, mais une mission par rapport à l'histoire de la culture hip-hop qui naît et qui vient de la rue, comment justement faire en sorte que cette culture, que cette danse puisse continuer à grandir. Je me souviens à l'époque, on parlait du hip-hop comme étant un mouvement éphémère, quelque chose qui est inscrit dans un courant de mode, mais qui n'allait pas rester. Et donc effectivement, par ce travail-là, je pense qu'on fait durer l'histoire de cette danse, on la fait évoluer. Voilà, donc c'est ça qui me plaît, c'est d'essayer à chaque fois de prendre des risques. Après, bien sûr, il y a ceux qui vont accompagner, qui vont suivre, ceux qui ne vont pas trop comprendre. Mais quand je fais un petit peu le bilan de ces 30 dernières années, je me rends compte que finalement, c'est plutôt une belle histoire pour l'évolution de cette danse.
Oui, non, c'est un beau parcours. Et puis, bon, c'est comme tout parcours artistique et de création où il s'interroge, il évolue, il se développe. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir amené aussi cette dimension artistique forte dans cette danse hip-hop qu'on croyait, comme vous le disiez, finie. Mais non, pas du tout. C'est un art en lui-même. Voilà, ça prouve aussi que c'est vraiment un art en lui-même.
Merci beaucoup pour
cette présentation et votre parcours.
On vous retrouve de toute façon ce soir sur le plateau du Cadran à Évreux, puisque vous êtes interprète de Box Box.
Oui, tout à fait.
Pardon, allez-y.
Non, tout à fait. Donc, je serai heureux, effectivement, de partager, en tout cas, avec le public d'Évreux, ce spectacle-là, ce soir.
On vous attend avec impatience. Et puis, juste avant de se quitter, c'est vrai qu'on vous avait demandé, comme on le fait avec nos invités en plateau, de nous proposer un morceau de musique. Et vous avez choisi un morceau d'un compositeur qui s'appelle Hassen, avec lequel vous travaillez, je crois, depuis plus de 10 ans maintenant.
Oui. Tout à fait, oui. C'est la personne qui accompagne mes chorégraphies depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi mon petit frère, je peux le dire.
D'accord.
et voilà. Donc,
voilà la fidélité.
Qui a travaillé là avec le quatuor depuis. Lui aussi a vécu cette expérience de manière très, très intense parce que encore une fois, ce n'est pas donné à tout le monde de s'entourer comme ça pendant plusieurs semaine avec un quatuor de ce niveau-là et en même temps un quatuor qui est prêt à faire des concessions aussi dans leur propre rapport à la musique. Et c'est extrêmement intéressant.
Merci beaucoup Mourad Merzouki.
Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Donc à scène, un morceau intitulé Flamenco, issu de la bande-son du spectacle Box Box.
Eh bien, pour notre troisième plateau, nous accueillons donc Auré, qui est un artiste graffeur et qui présente son exposition Back Home ce soir même au Matahari. Bonjour Auré.
Alors, salut.
Merci d'être présent avec nous pour cette émission. On tenait à vous avoir parce que c'est du direct, hein, votre actualité, c'est ce soir sur Évreux. Alors, Back Home, mais comment vous êtes déjà venu à Évreux ?
Je suis
né. Vous avez déjà sévi à Évreux ?
C'est surtout que je suis né et j'ai vécu extrêmement longtemps à Évreux et j'ai commencé à pratiquer le graffiti à Évreux, dans les rues d'Évreux.
Avec notamment ce fameux Quetzalcoatl.
Alors, oui. Alors
parce que nous, on connaît, en tant que spectateur habitant, piéton des rues d'Évreux, des quartiers d'Évreux, on voit souvent ce petit serpent à plumes. Sur des façades et à certains endroits bien particuliers de la ville.
Alors le Quetzalcoatl, je le travaille depuis maintenant quasiment 15 ans et c'est cette rencontre avec le Quetzalcoatl, donc je rappelle que le Quetzalcoatl c'est le serpent à plumes qui est un des dieux majeurs des mythologies précolombiennes, donc Maya et Aztèque. Donc sur la zone de l'actuel Mexique. Et c'est suite à des différents séjours et voyages en terre mexicaine que j'ai intégré le Quetzalcoatl à mon univers pictural. Et depuis 2006, j'ai lancé le projet Les Voyages du Quetzalcoatl, où donc, je dissémine dans toutes les villes où je passe et lors de mes voyages des séries de tableaux petit format, en travaillant l'image du serpent à plumes. Et en cela, je suis fortement influencé par la démarche de Invader, le célèbre colleur de mosaïque connu dans le monde entier.
Mais c'est un peu le même principe.
Au niveau esthétique et concept artistique, c'est radicalement différent. Mais par contre, la stratégie de pose dans l'espace public et la recherche des spots, on va dire, est exactement la même.
Alors c'est vrai qu'on est passé directement au serpent à plumes parce que c'est ce qui vous identifie en tout cas pour les auditeurs et puis même pour nous. Maintenant ce serait réducteur de ne parler que de ce travail-là parce que ça fait des années maintenant. Moi j'aime pas dire sévisser parce que du coup on revient sur le côté un peu interdit, illégal du graffiti, mais justement moi j'avais envie de vous demander comment on passe des murs à la toile ? Comment on passe d'un graphe spontané, même s'il a été travaillé, pensé sur un mur un jour comme ça, une fois, et puis aujourd'hui, quand on regarde votre parcours, quand on regarde les œuvres que vous pouvez produire, elles sont... ça a beaucoup changé, quoi. Il y a des choses qui sont plus légales aussi, qui sont faites maintenant. Enfin, voilà. Comment on passe des murs à la toile, finalement ?
Mon parcours personnel s'inscrit dans l'évolution globale du mouvement graffiti et encore plus largement du mouvement hip-hop. Et tout à l'heure, donc, vous avez dialogué avec Monsieur Merzouki et je pense qu'on peut faire le parallèle avec l'évolution de la danse hip-hop dans le sens où donc la culture hip-hop dans son ensemble, que ça soit le rap, le graffiti, la danse hip-hop, viennent de la rue et tirent l'énergie de la rue et de sa proximité avec le quotidien des gens. Mais maintenant, on est arrivé à une phase, je dirais, de maturité où le défi pour plein d'artistes investis dans le hip-hop, hein, que ce soit des danseurs, des rappeurs, des graffeurs, c'est de garder cette énergie et cette spontanéité qui nous vient de la rue tout en sachant dépasser cette origine pour avoir des propositions esthétiques qui vont plus loin et aussi avoir l'équilibre entre ce qui continue à faire, on va dire, dans la rue, dans l'espace public, donc que ça soit pour un graffeur de peindre dans les rues, pour un danseur hip-hop de continuer à danser dans les halls de gare, par exemple, et, mais dans le même temps, avoir des liens avec des lieux institutionnels où on présente notre travail de manière beaucoup plus formelle. Et je pense que c'est le hip-hop, à l'heure actuelle, est dans cette phase de changement radical où voilà, faut qu'on trouve l'équilibre entre l'énergie de la rue et le rapport au institutions de plus en plus développées.
Alors, dans l'intention de la rue, il y a un côté vandale. C'est pas moi qui invente ce mot. Hein, il a été régulièrement repris dans ce qui se passait dans la rue. Une des intentions majeures était d'interpeller les gens, de par la dégradation du mobilier urbain. Enfin, ça a été pris souvent comme ça. Et c'était, je crois d'ailleurs, le terme de certaines condamnations, hein, dégradation du mobilier urbain. Il y avait une revendication. Le fait de passer du côté institutionnel enlève toute cette partie-là, bien entendu. Et est-ce qu'au bout d'un moment, c'est, on en extrait uniquement le côté graphique, le côté visuel de l'intention de départ? C'est... Je ne sais pas si je suis clair dans ma question, mais...
Enfin, moi, je l'entends très bien, parce que c'est une problématique à laquelle on est confronté tout le temps. Bon, c'est un débat extrêmement large. Déjà, on ne peut pas... Enfin, quand vous dites que l'intention de départ, c'est de revendiquer, d'exprimer quelque chose, il faut voir que, comme dans tous les champs artistiques, le milieu des gens qui agissent dans la rue, donc que ce soit des graffeurs, des pochoiristes, des colonisateurs, les couleurs d'affiche. Chacun de nous avons des motivations extrêmement différentes. Pour ma part, j'y mets une charge politique extrêmement forte dans mon acte de mettre l'art dans l'espace public. Après, il y a plein de gens qui ont commencé à faire du graffiti juste par envie, je vais pas dire pulsionnelle, mais voilà, une envie. Le côté revendicatif, comme disait Joey Starr dans un des titres de Paris sous les bombes, certains étaient là juste pour exprimer un cri, d'autres comme moi juste par appétit. Voilà, il y avait tout. Moi, effectivement, j'y mets une charge politique, mais c'est pas le cas de tout le monde déjà. Ensuite. Le hip-hop est extrêmement à la mode, le graffiti, le street art est extrêmement à la mode, on est récupéré par les institutions. Moi, je pars du principe que les institutions viennent vers vous quand elles ont besoin de vous pour justifier leur existence. Et en même temps, les artistes ont envie d'être connus. Je veux dire, c'est quand même... Enfin, c'est se mentir, même si on a envie de continuer à être underground et de... d'être en parallèle au système, on a tous envie, à un moment donné, de voir notre travail reconnu. Et moi, le premier, je m'en cache pas, ouais. J'ai envie aussi que mon travail soit reconnu par des institutions, pouvoir montrer mon travail en galerie. Après, oui, il y a une récupération extrêmement forte à l'heure actuelle, à tout niveau, que ce soit les institutions, les grandes entreprises. C'est à la responsabilité individuelle de chaque artiste dans sa manière de développer son travail, d'être vigilant. Et après, il y a des gars que ça dérange pas de se vendre à n'importe qui pour n'importe quoi. Bon, c'est leur affaire. Moi, j'essaie d'être vigilant, même si j'ai envie d'être reconnu par des institutions. J'ai pas forcément envie de travailler avec des grandes entreprises pour de la publicité, par exemple. Voilà, c'est un... Alors oui, on est en train, je pense petit à petit, de perdre la charge rebelle. Qui, alors c'est extrêmement paradoxal parce que c'est cette charge contestatrice qui a fait notre originalité. Et en même temps, le fait d'être digéré comme ça petit à petit par la société fait qu'on perde cette charge-là. Mais bon, je dirais que c'est exactement la même chose que pour le rock. Moi, je fais souvent ce parallèle-là avec le rock dans les années 50-60 qui a été perçu comme quelque chose de nouveau, de révolutionnaire, etc. et qui maintenant fait partie des meubles. Voilà. Bon, bah, je pense que le hip-hop est en train de vivre cette mutation-là qui est inhérente à tout mouvement artistique qui conteste la société, qui est originale et qui petit à petit est digéré et qui perd de sa charge contestatrice.
Alors peut-être qu'on perd.
Méfions-nous parce qu'après faire partie des meubles, il y a être ringard. Hein. Donc il faut être vigilant. Hein.
Ah non, mais hein, ça je l'attends. Le graffiti sera ringard dans 10-15 ans.
Non, mais du coup, il y a
OK, peut-être que la charge contestataire, elle baisse un peu, mais ça s'enrichit d'autres choses, finalement aussi. Est-ce que ça ne vous pousse pas à réfléchir, à penser différemment votre art, votre travail ?
C'est une question Moi, je suis dans une logique de garder la flamme du départ qui est posée dans la rue et montrer. Donc, moi, je viens du pur graffiti, donc la bombe à main levée, marquer son nom sur tous les supports de la ville. Maintenant, le travail sans autorisation que je continue à pratiquer principalement, c'est le collage de mes tableaux sur l'image du serpent à plumes. Donc j'ai envie de garder mon activité dans la rue, informelle, parce que j'en ai besoin, ça fait partie de mon bien-être en tant qu'artiste qui vient du graffiti. Et par contre, pour ce qui est des travaux plus liés avec des institutions, je tente d'aller plus loin dans le propos esthétique. Donc voilà, c'est une question toujours d'équilibre entre ce qu'on fait dans la rue et la prolongation de ce travail dans la rue, dans des lieux institutionnels. Voilà, garder le lien, que les gens fassent le lien entre les deux, mais en même temps que le travail en intérieur pour les galeries, pour les expositions, aille plus loin au niveau esthétique que ce qu'on fait dans la rue. Parce que quand on pose dans la rue, faut que les œuvres frappent rapidement, donc faut aller vers une certaine simplicité. Les œuvres peuvent être arrachées aussi assez vite, donc je fais du travail en cire, etc. Donc mon intérêt, moi, c'est de proposer un travail esthétique plus riche, on va dire, en exposition que dans la rue.
Et puis le public, au bout d'un moment, sur une exposition, vient à une démarche plus volontaire de se dire je vais venir aujourd'hui voir les travaux d'Auric. Dans la rue, le concept est presque inverse. C'est c'est la réalisation qui vient voir le public.
Complètement. Là, on change, on inverse les rôles. Et je pense que c'est ça qui fait tout. Enfin, c'est une des grandes idées qui fait toute l'originalité du mouvement art de rue, c'est que les artistes vont vers les gens en posant leur art de manière gratuite dans l'espace public. Ça, c'est un acte extrêmement novateur. Et là, effectivement, que des gens viennent voir des expositions de graffeurs ou de street art, effectivement, ça inverse un peu notre proposition de départ, qui est d'aller vers les gens. Mais toujours pareil, c'est un aller-retour, un équilibre. Moi, ce que j'espère, c'est que les personnes qui sont interpellées par mon travail dans la rue et ont envie, suite à leur découverte de mon travail dans la rue, se disent « Est-ce que ce gars-là fait d'autres choses en exposition ?» Donc, je vais aller voir ses expos pour voir si son travail est différent. Voilà.
Nathalie.
Oui, non, moi j'avais juste envie de rebondir. Sur,
tu levais la main. Hein.
Oui, j'écoutais Auré, puis en même temps, ça me faisait penser à plein de questions. Non, moi je trouvais, dans cet aller-retour, moi je trouve que c'est extrêmement stimulant, enrichissant, aussi créatif, justement, d'avoir ces deux dimensions-là pour cet art-là. C'est une richesse, en fin de compte, c'est aussi une richesse. Et voilà, donc c'est juste de la remarque, et puis. C'est vrai que le travail des graffeurs, avec cette dimension artistique, c'est aussi nous permettre d'avoir un autre regard sur la ville. Non seulement on a un regard sur une œuvre qui nous est posée, mais moi je me suis surprise en regardant un peu en parcourant Évreux, d'avoir posé mon œil à des endroits où je ne posais pas mon œil habituellement. Et ça, c'est le graphe, c'est le pochoir, c'est le collage qui m'a permis ça. Je trouve que voilà, vous apportez aussi pour le piéton, pour la personne, un autre regard sur la ville où il est.
Complètement. Le fait d'interpeller le passant et d'arriver à lui faire changer son regard sur la ville, c'est extrêmement intéressant. Et pareil, je pense que c'est un des aspects fondamentaux de notre mouvement. Les gens ont une autre appréhension et une autre lecture de la ville quand ils ont intégré l'art de rue à leur promenade urbaine.
Exactement.
Effectivement, tu parcours plus la ville de la même manière, et tu vas pas seulement passer dans la ville en tant que consommateur passif, tu vas ouvrir tes yeux et tu vas regarder de l'art. Et ça me permet de parler d'un aspect qui me semble important. C'est-à-dire que moi, en tant qu'artiste qui œuvre dans la rue, je passe en position d'acteur. C'est-à-dire qu'on parle souvent à notre époque, notamment au niveau politique et au niveau quand même, on va dire, des relations sociales dans leur ensemble. On parle d'une certaine passivité, hein, la passivité du consommateur. Voilà, on subit un peu les choses, on nous propose des choses à voir, à consommer, etc. Et quelle est notre capacité en tant qu'individu à agir dans notre quotidien, sur notre environnement? On sent qu'on n'a plus prise sur grand-chose. Hein. Je pense qu'au niveau politique, ça se ressent de manière extrêmement forte, et ce qui explique les taux d'abstention énormes qu'on connaît dans nos démocraties occidentales. Et donc, que les artistes agissent comme ça dans la rue, ça inverse ce processus-là, enfin, ça le casse plutôt. Et voilà, je poserai la force créative de l'artiste à la passivité du consommateur.
Je crois que c'est un très beau point final. On pourrait disserter des heures et des heures encore. Moi, je vous propose de retrouver Auré ce soir au Matahari à partir de 18h pour l'exposition Back Home. Et puis, c'est jusque fin mai, je crois, si je dis pas de bêtises.
Jusqu'au 29.
Jusqu'au 29 mai, voilà.
Avril.
29 avril, pardon. Pour moi, voilà.
C'est hyper dur. En tout cas, merci Auré de...
Merci pour votre accueil.
Nous avons demandé de ramener la pause musicale qui suivait notre échange. Vous avez choisi Bess Gibson. Pour quelle raison, quoi qu'est-ce, en
Alors,
quelques mots.
L'ex-chanteuse des Portishead, parce que je suis dans une phase, bon là c'est extrêmement personnel, vraiment, où j'écoute beaucoup de chanteuses, hein, Alena Diane, Coco Rizzi, Cat Power... Voilà, je suis dans une touche un peu féminine dans ma musique, voilà, parce que je sais pas, je suis touché par la féminine à l'heure actuelle, voilà, la sensibilité côté planant, tout ça, voilà, je suis donc l'ex-chanteuse des Portishead, une artiste que j'adore. Voilà.
Et bien, nous écoutons tout de suite le morceau choisi par Auré, Bess Gibson, Mysteries.
Love and mystery, I'll be there.
Gibbons, Mystery. L'agenda, très vite, l'agenda, j'y sais.
Alors nous avons quelques dates et nous allons nous faire plaisir en commençant par celle qui arrive demain, vendredi 5 avril, l'Octroi Acoustic Club, émission de la grille de Principe Actif et d'HDR aussi d'ailleurs, propose un live extérieur en public à la Gare aux Musiques demain à partir de 21h sur l'antenne, ouverture des portes à 20h30, programmation hors zone, escapade, T-Notes. Je fais un focus un petit peu dans cette annonce autour de la Langue Brune, qui va être un concept lecture rock, quelque chose à découvrir, et je vous invite à venir vous faire surprendre par la Langue Brune, justement. En parallèle, et durant cette soirée, il y aura le vernissage de l'exposition photo de Léa. L'entrée est libre et gratuite à la Gare aux Musiques de Louviers et sur l'antenne de Principe Actif et d'HDR à partir de 21h. L'oreille du cyclone, on rappelle les dates.
L'oreille du cyclone, du 10 au 13 avril 2013 à Évreux. Et puis, on termine avec le festival premier, c'est ça
premier... Le premier festival Rock'n'Reel. Alors, ça vaut le coup qu'on s'y penche. Effectivement, première édition d'un festival assez rock, au prieuré de Saint-Philbert-sur-Risle. Rien que pour le nom de l'endroit, ça valait le coup d'en parler. En tout cas, à l'affiche, The Jim Jones Review, Lucky Green, Dread Zone. Je vais pas tous vous les faire, mais vous trouverez toutes les informations sur internet et dans tous les réseaux sociaux. En tout cas, ce sera le 3 et 4 mai à venir au prieuré de Saint-Philbert-sur-Risle. C'est du côté de Montfort-sur-Risle, hein, le 3 et 4 mai 2013. Ça nous amène à la fin de cette émission de Scène de vie vite scène. Après une petite virgule, nous vous quittons sur la musique du monde.
Alors musique.
Nous avions dit, après une petite virgule,
voilà, je
Nathalie.
Laisse passer la virgule. Oui, donc, juste là, Mento Jamaïcain, très vite, c'est Hubert Porter and the Jamaican Calypsonian, et avec le titre Ten Penny Nail.
Rendez-vous le 3 mai
pour notre prochaine émission.
Voilà.
Et entre deux, on vous souhaite un bon mois de sortie.
You're going to poop on old cow head. Get the hammer, tie your head with the red. For it make a poor man nearly lose him life. Left him out and pick the run and left him wife. The cow head get up, raise up him horn. Open him out and start to warn. The poor man holler until he moors. Him run from Clarendon to his goals. Nail, nail, ten penny nail. Get your hammer on a ten penny nail. Nail, nail, ten penny nail. Get your hammer on a ten penny nail. The cow head get up, raise up him horn. Open him out and start to warn. The poor man holler until him hoots. He run from Clarendon to his school. Going to cook an old cow head. Get a hammer, tie your head with coolly red. For it make a poor man nearly lose him life. Left him out and pick the run and left him wife. The cow head get up, raise up him horn. Open him out and start to warn. The poor man holler until him hoots. Him run from Clarendon to his goals. Nail, nail, ten penny nail. Get your hammer on a ten penny nail. Nail, nail, ten penny nail. Get your hammer on a ten penny nail. The cow head get up, raise up him horn. Open him out and start to warn. The poor man holler until him hoots. He run from Clarendon to race course.